Rendez-vous théâtre.
Le rendez-vous théâtre, bonjour. Guillaume Lazébar de Fabregue.
David Professeur Fati, bonjour à tous.
Nous sommes le 23 avril, David, et tu es enfin allé voir L'Os à Moelle à l'Artistique.
Ah oui, tout à fait.
Et j'espère que tu as savouré.
J'ai adoré. J'ai adoré L'Os à Moelle. Alors, je rappelle ce que c'est. L'Os à Moelle, c'était une sorte d'hebdomadaire, un peu comme un canard, comme le canard enchaîné ou Charlie. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu.
C'était l'organe officiel des loufoques.
Voilà, c'est ça. Loufoque est donc le mot fou en louchébem, qui est l'argot des
bouchers. Le père de Pierre Dac était boucher.
Ah, voilà. Et donc, Pierre Dac, avant de fuir l'Allemagne nazie, était à Paris et il a créé donc cet hebdomadaire sur 4 ou 5 pages qui s'appelait L'Os à Moelle, qui était donc effectivement toute une série de loufoqueries magnifiques avec des fausses recettes de cuisine, avec des fausses pubs, avec plein d'aphorismes. Et tout ça, c'est servi, c'est resservi, c'est redonné à entendre par trois formidables comédiens. Il y a Emmanuel Galabru. Il y a
Cédric Collat,
qu'on adore.
Qui on adore et qui était dans le CID.
Quand tu es dans le CID, effectivement. Et qui était aussi dans Le Fil à la Pâte. Le Fil à la Pâte qui était de Nanty, qui n'était pas formidable comme pièce, enfin comme mise en scène, mais les comédiens. Et surtout lui, il sauvait complètement la partition. Et puis, il y a dans L'Os à Moelle, Michel Ouimet. Michel Ouimet, c'est.
C'est le
prince
de Pierre Dac.
De l'absurde. C'est celui qui joue le professeur dans la leçon de Ionesco quasiment depuis 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, à la Huchette. Et il a exactement. Il a une sorte de rictus de 2 second degré qui correspond exactement à Pierre Dac. Moi, j'ai même failli me demander. Je me suis demandé, parfois, pendant la représentation, s'il n'avait pas vraiment connu Pierre Dac, si Pierre Dac lui avait pas refilé avant, parce qu'ils sont pas de la même génération, l'un
même
aurait pu être
fait,
le fils
fait,
de l'autre,
tout à fait,
donc
tout à fait
voilà.
De la même génération.
Et donc
si
on pourrait imaginer que Pierre Dac lui a refilé ses recettes.
Reviens au spectacle.
Voilà.
Effectivement, t'as les recettes de Pierre Dac,
c'est une heure,
annonces,
c'est une heure et demie d'aphorismes.
T'as les éditoriaux qui sont fins et qui sont politiques. T'as le running gag de la relance d'un certain Adolf Hitler qui n'a pas payé son abonnement
à L'Os à Moelle.
Et c'est du non-sens avec une vraie finesse politique et c'est extrêmement anti-hitlérien.
Oui, bien sûr, c'est très
anti-hitlérien. C'est extrêmement hitlérien.
Oui, bien sûr, évidemment.
Et c'est une très jolie mise en scène d'Anne-Marie Lazzarini. Ça se joue.
Oui, c'est très enlevé comme mise en scène. C'est pas simplement une sorte de catalogue. Non, il y a quelque chose au niveau de la mise en scène. Il y a quelque chose qui rajoute un petit peu à la dynamique générale. Oui, on s'ennuie pas.
Hein. C'est l'anti-Hanouna, voilà. C'est l'anti-quotidien.
Ah oui, c'est ça. Pierre Dac, c'est une sorte
C'est le fait de dire que le rire peut être politique, il peut être résistance, mais c'est pas le rire gras et facile.
Non, c'est un rire un petit peu à la Woody Allen, c'est-à-dire qu'on se moque des mots et on se moque de son contemporain et avec un petit côté français libertaire, voilà.
Bref,
ça
tu as
marche,
aimé,
j'ai adoré.
J'avais aimé. Alors on vous dit une seule chose.
Ah oui, il faut y
on
aller.
On vous dit une seule chose, il faut aller voir
L'Os à Moelle
à l'Artistique.
Oui.
Théâtre.
Voilà. Je fais mou. Alors, est-ce que je peux parler d'une autre pièce qu'il faut absolument aller voir?
Alors, allons-y, puis ensuite, on parlera de La Flèche.
Ah oui, le théâtre La Flèche.
Non, mais d'abord,
oui.
Pour l'instant,
magnifique
lieu. Alors,
pour
l'instant, on
alors,
parle de moment,
c'est moment, ça se prononce moment, mais en fait, c'est maman. Moment, pourquoi les méchants sont méchants, de Jean-Claude Grunberg. Ça se joue dans la petite salle de la Scala. C'est l'histoire d'une mère et de son fils qui sont dans une querelle, une discussion, une sorte de discussion un peu initiatique pour le fils et aussi pour sa mère qui a des difficultés à payer son loyer. Bon, je peux rien dire d'autre tellement c'est tout est magnifique et surtout tout le monde va se retrouver et dans le fils et dans la mère. Il se trouve qu'en plus, ça tient beaucoup aux comédiens. Les comédiens, c'est Clotilde Mollet, qu'on connaît peu, ou du moins pas assez, en tout cas qui fait une partition formidable. Et puis évidemment, donc il y a Hervé Pierre. Hervé Pierre, on le connaît parce qu'il est ancien sociétaire de la Comédie Française. C'est, il joue tout en nous faisant croire qu'on est lui-même, quoi. C'est-à-dire que quand il joue le père, moi j'ai le fils, j'ai eu l'impression d'être le fils. Quand il joue la mère, puisque à un moment donné, il y a un switch entre les deux, on a l'impression d'être la mère. Il est, enfin, ouais. Hervé Pierre, bon, surtout, il est immanquable. Et je reviens sur ce que j'ai dit sur Clotilde Mollet. Moi, je la connaissais pas beaucoup. Elle est tout à fait au niveau d'Hervé Pierre, qui est un très très haut niveau. Voilà, c'est un bonheur. À la fin de la représentation, les gens se lèvent, applaudissent, tapent des mains, tapent des pieds.
C'est dans la grande ou la petite salle ?
C'est la petite salle.
C'est la petite salle. Elle est magique, cette petite salle de la Scala, où on est sur les. On est au milieu de la pièce.
Et puis on est ailleurs, en fait.
On est ailleurs.
Il y a quelque chose d'extraterritorialité dans cette.
En parlant de salles de petite taille, je crois qu'il y a énormément de pépites dans cette fin de saison à La Flèche.
Oui.
Je sais que toi, tu as vu 37.
Oui, moi, j'ai vu 37 heures, bien sûr. Mais à la Flèche, j'ai vu plein de trucs formidables. Hein. Depuis au moins 2 ans, enfin, disons, oui, il y a même eu des créations de Pierre Note.
Il y a une création de Pierre Note qui s'est faite, mais là, il y a d'autres choses. On sait, on l'a déjà dit, on aime Flavie Fontaine et
oui,
on croit qu'elle a une vraie ligne éditoriale.
Tout à fait. Parle
de 37 heures.
Ben alors, 37. Pardon. 37. L'intérêt de 37 heures, donc c'est l'histoire d'une femme jouée par Elsa Drucker. C'est l'histoire d'une femme qui vient confier qu'elle a été violée entre 18 et 25 ans, 23 ans, par son prof d'auto-école. Alors, ces histoires-là, on en connaît plein. Et du moins, il y a eu beaucoup de pièces de théâtre sur le sujet. La différence avec ces pièces de théâtre et 37 heures, c'est que elle a réussi à attraper le sujet autrement. Je m'explique. C'est-à-dire qu'elle a réussi à non pas faire comme Christine Angot, qui vient essayer d'être au plus près de la réalité historique et de rendre compte du moindre détail. Non. Elle vient rendre compte du moindre détail de ses souvenirs qui remontent, de toutes ses rémanences. Du coup, on a quelque chose qui vient exactement comme ça vient dans la psyché d'une personne qui a vécu ce traumatisme-là, c'est-à-dire par petits bouts. Le souvenir se reconstruit, se retraduit, se réinterprète par petits bouts. Les petits bouts qui sont, d'une certaine façon, les 37 heures, les 37 cours de conduite qu'elle a eu avec ce prof d'auto-école qui avait 15 ans de plus qu'elle et qui l'a violée, qui l'a soumise en quelque sorte. Voilà. Bon, il faut aller voir la pièce d'abord pour ce que je viens d'expliquer, parce que c'est extrêmement intéressant, et aussi parce que la comédienne est formidable. Enfin, disons, on ne s'ennuie pas, et puis on n'est pas du tout dans la victimisation. On est dans un truc un petit peu cru, effectivement, mais humain au sens où on a envie d'être en empathie avec ce personnage sans être obligé d'avoir une sorte d'empathie dégoulinante. Voilà. 37 heures à La Flèche, formidable.
On en reparlera puisque je vais le voir mercredi,
oui,
et
voilà.
Que je le verrai. À La Flèche, je voudrais, toi, David, que tu ailles voir Les Jeux d'Adrien Madinier. Les Jeux, c'est un spectacle qui est surréaliste, qui est poétique, qui est fantaisiste. C'est un comédien qui est seul sur scène, qui a fait de la solitude un statut, qui pose un regard très particulier sur le monde et qui va essayer de prendre le contrôle du monde. Et ces jeux, son jeu de prendre le contrôle du monde, ça se joue avec des règles. Ça va consister à créer une chaîne d'attention d'une personne à une autre dans un bus. Ça va consister à faire des exercices. Je fais ça à telle personne, je fais ça à telle personne dans un café. Et c'est comme le patinage artistique. Il se note. Et puis, ça va consister dans un café de nuit à arriver à devenir le centre de l'attention sans rien faire. Et c'est un spectacle qui est surréaliste, qui est bourré de fantaisie, qui est plein de poésie. C'est mon coup de cœur de cette fin du mois. C'est un jeune homme qui s'appelle donc Adrien Madinier. Adrien Madinier a fait le texte, il a fait la mise en scène. C'est lui qui est sur scène. Et c'est vraiment un spectacle à découvrir pour sa poésie, pour son côté lunaire. Et parce que c'est un spectacle qui fait du bien. Et dans un autre genre...
Toujours à la flèche.
Et le même jour, d'ailleurs, qu'Adrien Madinier le samedi, tu peux aller voir la forme des choses de Neil Labute.
Oui,
Labute, c'est un auteur, il est excellent, souviens-toi d'Amour amer, il te raconte une histoire, et plus ça va, plus ça devient glauque et nauséabond.
Oui,
et
c'est
ben là,
tout à fait...
Là, c'est pareil. On va pas la raconter globalement. C'est l'histoire d'une artiste jeune qui croise un gardien de musée insignifiant et qui va le transformer en beau jeune homme musclé, tout ça, jusqu'au moment où elle va soutenir sa thèse et où là tout va exploser. Mais entre temps, elle aura fait exploser le couple de ses seuls amis à lui. Parce que c'est comme ça, c'est du Neil Labute. Alors ça, c'est une pièce, je suis sûr qu'elle va durer, elle va être exploitée longtemps, mais là, si tu vas la voir à la flèche, tu auras la chance d'être à peu près sur les genoux des acteurs et de recevoir en direct toutes leurs émotions, toutes leurs sensations. Donc, vas-y un samedi, va voir les jeux d'Adrien Madinier, parce que c'est un spectacle fantastique, c'est un spectacle lunaire, c'est un spectacle qu'il faut qu'on défende tous ensemble, et profitons pour voir la forme des choses.
Allez, super.
Parce que,
tu m'as fait ma semaine. Voilà. Enfin, ma semaine qui est bien avancée, moi.
Je pourrais continuer.
Est-ce que tu veux parler encore d'autres
choses? Non, je veux dire deux mots, puisqu'on parle de la flèche, sur Pan et Syrinx, qui est la légende de Pan. Et le mettre en parallèle, on parlait de l'artistique tout à l'heure, et à l'artistique, j'avais vu ce Cid qui était centré non plus sur Rodrigue, mais qui était centré sur Chimène, et qui faisait de Chimène la véritable héroïne de la pièce. Oui. Ben là, c'est pareil. Dans Pan et Syrinx, l'histoire est non pas réécrite, mais recentrée. Et là où on a l'habitude de dire « Oh, c'est la belle histoire du pauvre Pan qui est là, et puis il poursuit, et Yukaïda, il la rate, mais elle se transforme en roseau, regardez la musique comme c'est mignon. » L'histoire n'est pas du tout mignonne. Pan, il est moche, il est laid, il aperçoit une jolie nana, il s'est isolé parce qu'il ne veut pas qu'on le voit, il aperçoit une jolie nana, et puis il court après, il la poursuit, et cette disparition dans laquelle elle se transforme en roseau, cette disparition, c'est juste une fuite. D'accord ? Et regarde ce qui se passe dans les rues, regarde ce qui se passe sur les quais de métro, c'est exactement ça. D'accord. Et toutes ces pièces, c'est un peu comme sur le site. Donc,
je suis pas
fan de la mise en scène.
Il faudra quand même qu'on dise à l'auditeur que tu ne dors pas à la Flèche, que tu n'habites pas dans la rue de la Flèche, et que si tu vas à la Flèche voir quasiment tout,
c'est parce que la ligne éditoriale de Frédéric Fontaine est fantastique, comme la ligne éditoriale de Sabine Dacalor et d'Elisabeth Bouchot à la Reine est fantastique.
Oui.
Il y a des théâtres, on l'a déjà dit et on peut le redire, il y a des théâtres qui sont des parkings, qui louent simplement leur créneau. Ça ne nous empêche pas d'y aller. Ça ne nous empêche pas d'y aller parce qu'on y voit aussi des bonnes pièces.
Partout, nous.
Mais alors, à la Reine Blanche et à la Flèche, je suis désolé, il y a une vraie ligne éditoriale. Il y a encore d'autres choses.
Mais il y a aussi... Moi, je suis allé...
Tu devais me parler du mandat.
Oui, à la Tempête, c'est toujours très bien, la Tempête. Souvent, même, c'est encore mieux dans la petite salle de la Tempête. Je fais ça...
C'est vrai.
Je dis ça parce que, en référence à la Scala, où c'est vrai que dans la petite salle...
Mais de la même façon, si je puis me permettre, qu'au rond-point, il y a des vrais pépites dans la salle Roland Topor.
Oui, exactement, tu as raison.
Et c'est normal, si tu veux. Sur des grandes salles, il faut qu'ils aillent chercher des choses, des grosses machines qui vont permettre de remplir 900 fauteuils. Sur une petite salle...
Oui, les pépites, elles sont dans les petites salles, au fond.
Ils peuvent prendre un risque.
Alors, le mandat. À la Tempête, c'est dans la grande salle. Bon. C'est un texte qui a 100 ans, 2024, et 100 ans. Alors, c'est un texte, c'est une sorte de fédo, c'est une sorte de burlesque, de situation. C'est l'histoire de deux familles qui sont en train de vivre à leur façon la bascule entre le tsar et, et le fascisme communiste. Alors, effectivement, cette bascule-là, c'est pas la bascule au sens de la cerisée. Hein, c'est malheureusement une bascule beaucoup moins intéressante pour nous aujourd'hui. Hein, parce que, la question communiste, elle n'existe quasiment plus. Le communisme n'existe plus. On pourrait peut-être...
À part peut-être en Chine, où il s'est transformé sous une autre forme.
Peut-être. Ou alors, on pourrait peut-être le comparer à ce qui s'est passé en Iran, à la chute du Shah, il y a un fascisme islamiste. Bon, mais tout ça, finalement, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Alors, ce qui nous reste à nous... Pour nous, d'apprécier, c'est le côté burlesque de la situation, le burlesque de personnes qui veulent garder leurs prérogatives et jalousement leur droit dans un monde qui change où finalement son entre-gens de tsariste doit être remplacé par un entre-gens de ce qu'ils appelaient à l'époque la dictature du prolétariat. Voilà. Alors, donc pour ça, il a un mandat. Je raconte pas tout. Ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Pourquoi ? D'abord parce que c'est assez simple à comprendre et des fois, je suis bien content d'avoir des intrigues faciles à comprendre. Et puis la deuxième chose, c'est la vraie réussite de ce spectacle qui est, la pièce est un spectacle. C'est un spectacle qui est servi par une mise en scène formidable, très enlevée, et surtout par des comédiens que des individualités formidables. Voilà. Donc, on s'ennuie pas. Ça dure 2h15 pourtant. On s'ennuie pas. On rigole beaucoup. On est très content d'avoir vu le spectacle. Il en reste pas grand-chose parce que il reste, de la même façon qu'il reste rien du communisme, il reste rien de toute cette histoire-là. Mais on est content quand même de savoir qu'il y a eu une époque, il y avait des gens qui avaient peur du communisme, il y avait des gens qui avaient peur de ce...
Mais on s'est battu contre le communisme, on a fait la guerre froide contre le communisme.
Tout à fait. Bon, enfin voilà, mais 100 ans après le macartisme, bon, on n'a plus beaucoup d'intérêt à ces trucs-là. Mais bon, il en reste quelque chose. Et puis moi, je suis très content d'avoir découvert Nicolas Erdmann, qui est donc cet auteur, que je ne connaissais pas du tout, et qui a une capacité... qui est russe, donc, ça a été... C'est traduit par Makovitch. C'est la langue russe, mais elle ressemble à une langue un petit peu fédo, un petit peu labiche, un petit peu... Il y a quelque chose... On est content de savoir que les Russes avaient aussi cette capacité-là. Tchekhov disait toujours que ces comédies... Enfin, que ces tragédies étaient des comédies. Enfin, il disait qu'il ne jouait que des comédies. Il n'écrivait que des comédies. Bon... Parfois, je me disais que Tchekhov, il avait un petit coup dans le nez avant de dire ça, mais il s'engueulait avec tout le monde pour prouver ça. Et bon. Il paraît qu'en Russie, les Tchekhov faisaient rire le public. Bon, nous, on n'a pas eu ça.
J'ai le souvenir d'une pièce que j'avais vue au théâtre de Belleville,
oui,
qui était une femme qui racontait son approche de mémoire, c'était de la quarantaine, et elle est arrivée sur scène, et puis, je me suis mis à rire de ce qu'elle disait en disant « Putain, c'est un superbe second degré.
Mmh. »
Et toute la salle a ri pendant toute la pièce de cette description au second degré de la quarantaine d'une femme.
Pourquoi tu me parles de ça ?
Parce que derrière, on m'a fait savoir qu'elle l'avait très mal pris parce qu'il fallait la prendre au premier degré. Eh bien, Tchekhov, c'est le contraire.
Tchekhov, c'est le contraire. Erdmann, il veut en rajouter peut-être un peu trop. Alors, mais franchement, c'est très réussi, mais il y a un côté très européen dans cette moquerie politique. Ah. Malheureusement, ça vient attaquer le communisme qui n'est plus là. Il aurait fallu modifier un petit peu la partition. Ou alors essayer de se remettre à l'époque de... Mais bon, on avait Georges Marchais. Bon.
Ah, on avait Georges Marchais, on se souvient. Dans les pièces qu'il faudrait que toi, tu ailles voir, il y a une pièce qui s'appelle Majola. S'écrit Majola,
c'est une pièce Majola. Alors, je veux absolument la voir.
Et Caroline Darnay. Est une auteure, et une interprète.
Elle joue dedans.
Elle a écrit la pièce, la mise en scène. Ah,
je veux absolument aller voir cette pièce. Caroline Darnay, entre parenthèses, je ne sais pas si tu te souviens, c'est elle qui avait mis en scène le hamoc joué par mon corgé. C'est elle, la metteuse en scène. Donc, elle a beaucoup de talent, cette femme.
Elle a beaucoup de talent. Oui. Et là, un peu dans la ligne, tu te souviens de cette pièce de Demain la liberté,
la très pièce bien, sur le masseur, sur Fanny,
le docteur,
je l'avais vu au, avait au, vu théâtre Le Pic.
Au studio Eperdo, toi tu l'avais vu au Le Pic.
Oui.
C'est un peu de la même liée. Maiola. Maiola, c'est du polonais, ça veut dire petite reine. Et c'est le surnom que donnait à sa femme Irène Calder un monsieur dont le nom va tout de suite évoquer des choses chez toi, qui s'appelait Amon Goth, qui était le commandant du camp de Peslo.
Oui.
C'est l'homme avec qui dialoguait Schindler.
Ah, d'accord. Pour essayer de lui piquer, de lui racheter.
Ouais, de la main d'œuvre. On va dire de la main d'œuvre parce que voilà. Ok.
Oui, et n'en dis Irène pas trop Calder, parce que on Calder, aller le voir et puis découvrir le truc.
Tu vas le découvrir. De toute façon, l'histoire, c'est de l'histoire. C'est une vraie histoire. Donc l'histoire, elle est déjà écrite. Tu vas pas découvrir Schindler dans cette pièce. Et Irène Calder, elle a d'abord été la secrétaire de Schindler et ensuite elle a été la compagne d'Amon Goth.
Ah, très intéressant.
Voilà. Et c'est formidable. Ça. Ah, et oui. C'est ça.
Et c'est qui Caroline Darnay qui joue ce personnage.
C'est Caroline Darnay qui joue ce personnage.
Ouais, elle peut être super
et
belle.
Et c'est
plus.
Un vrai travail de mémoire. Et elle va remonter étape par étape le déni d'Irène Calder, qui au départ ne veut parler que de Schindler, pas d'Amon Goth, pas d'elle. Mmh. Et puis petit à petit va se livrer. Mmh. On va découvrir que elle était au fond une belle femme, peut-être un peu orgueilleuse, peut-être un peu superficielle. Et puis au fond elle a sauvé quelques juifs, ceux qui étaient autour d'elle. Mais en fait, elle était aussi très, très au courant de ce que faisait Amon Goth et de ses projets à lui. Et face à elle, il y a Marc Francesco Duré qui joue un journaliste qui, pendant la même guerre, était pilote de bombardier.
D'accord.
Et ils ont les deux choses à se dire. Et derrière...
Et ça se joue où?
Ça se joue à l'Essaillon.
Ah, dans la grande salle de l'Essaillon.
Dans la grande salle de l'Essaillon. Le lundi à 21h.
On va retourner à l'Essaillon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des trucs à l'Essaillon.
Voilà.
J'ai vu des trucs sur Boris Vian dernièrement. Là. Petit spectacle sur Boris Vian dans la petite salle de l'Essaillon, c'était formidable.
Le lundi,
et puis il y a le Macbeth qui revient à l'Essaillon.
Il y a le Macbeth, il y a le Rembrandt de Christophe de Lessart
qui
reprend. Voilà. Mais va voir Maiola.
D'accord. Oui, j'ai abattu
les gens. Et si j'ai juste un conseil à te donner, avant d'aller voir Maiola, relis Blanche-Neige.
D'accord. Ok.
Relis le Blanche-Neige des frères Grimm. Le Blanche-Neige des frères Grimm. Pas celui de Walt Disney. Pas. Tu relis le Blanche-Neige des. Tu relis le Blanche-Neige des frères Grimm. On parle un peu futur.
Futur. Alors, moi, demain, je vais voir le Don Juan de Masha Makiev. Je cache pas que là, pour le coup. Je suis déjà en train
de prendre ton pied.
Oui, voilà. Je me suis déjà rasé deux fois. Je vais me raser une troisième fois pour aller le voir. J'ai acheté une nouvelle chemise blanche pour y aller. Non, je crois beaucoup à ce spectacle. Et puis il y a le jour de joie, il y a la reprise de jour de joie à l'Odéon aussi. Et là, cette fois, c'est à Berthier. Cette pièce qui me paraît très importante. De Arne Ligre, mis en scène par Brunschweig. Je crois que c'est vraiment, si on doit parler un jour des années, de nos années de théâtre contemporain, il y aura quelques pièces qui vont rester, dont on parlera comme des références de cette époque. Et Jour de joie de Arne Ligre est une de ces pièces-là, voilà.
Alors, n'oublie quand même pas qu'on a un tropisme sur les petites salles.
Oui,
c'est donc l'Odéon, c'est bien, mais nous, notre tropisme, c'est les petites salles. Et donc, moi, je vais te parler de plus petites salles. Je vais te dire simplement que la série Les Fabuleuses qu'a créée Elisabeth Bouchot se poursuit.
Oui.
Donc là, moi, j'y ai revu Exil intérieur, j'y ai vu Prix Nobel. Mais surtout, ça va être la création de l'affaire Rosaline Franck.
Oui.
Et l'affaire Rosaline Franck, c'est la découverte de l'hélice de l'ADN Et Rosaline Franck est également une des personnes qui ont été spoliées et oubliées par l'histoire.
Parce que c'était une femme.
Parce que c'était une femme, et c'est pour ça qu'il faut voir cette série.
D'accord,
parce
oui,
que
c'est toute la série à la Reine Blanche.
Toute la série à la Reine Blanche, mmh. Parce qu'il y a vraiment un point commun qui est une sorte de dévouement chez toutes ces femmes, et c'est impressionnant. Et la série va se poursuivre avec des pièces, je ne vais pas en parler trop, parce qu'on a parlé lors du précédent épisode du podcast, avec des pièces qui vont être très polémiques. Et là, il y a en particulier une pièce, il faudra qu'on la soutienne, parce qu'elle va avoir sur le dos des gens qui vont être pas contents du tout et qui n'aiment pas du tout qu'on dise la vérité sur leur idole. Je ne dis pas qui c'est, ils nous écoutent, ça je le sais, parce qu'ils m'ont fait des petites remarques, mais ce n'est pas grave, on se battra à côté d'Elisabeth Bouchot. Voilà,
allez,
je dis juste
d'accord.
ça c'est le deuxième élément. Et autre chose également, dans les pièces que j'ai vraiment envie d'avoir, dont j'attends beaucoup, c'est London Bridge au Belleville. Voilà, j'en dis pas plus.
Okay.
London Bridge au Belleville, l'affaire Rosaline Franck à la Reine Blanche. Et puis, si vous avez envie de prendre un grand pied, mais ça c'est juste le 30 avril, c'est un grand singe à l'Académie, d'après le rapport à une Académie de Franz Kafka. Et puis,
je peux rappeler, moi, qu'au théâtre Nord-Ouest, où personne ne va jamais par erreur, il y a un magnifique Macbeth et il y a un magnifique Misanthrope.
Tu peux le rappeler.
Voilà. Et bien donc, je le rappelle. Théâtre Nord-Ouest, c'est à côté du métro Bellevue. Bonne nouvelle.
Eh bien, David.
Eh bien, on se voit là,
on dans, se
15
jours,
dans
15
alors. Jours. Allez, formidable.
Allez, bonne semaine à tous.
Bon
et
théâtre
surtout,
à
surtout,
chacun
surtout,
et à
allez
chacune.
Au théâtre, soyez ouverts, soyez découverts et allez voir les pièces que nous avons vues, celles dont on a parlé et celles dont on n'a pas encore parlé.
Rendez-vous théâtre.